Il y a, ceci est renforcé par un phénomène que je crois extrêmement important, qui est celui du sentiment de la compromission des scientifiques professionnels avec le pouvoir politique. Et c'est vrai qu'il y a un très grand nombre de scientifiques qui affichent leur coopération, leur collaboration, leur soutien avec le pouvoir politique. Et dans la mesure où, les masses perçoivent ce pouvoir politique comme oppresseur, comme source d'une certaine répression, ils ont aussi tendance à associer les scientifiques eux-mêmes, en raison de cette espèce particulière d'image de marque, à ce pouvoir politique. On trouve une variété incidente de cette attitude, mais très significative, dans l'attitude très répandue qui consiste à récuser les scientifiques officiels entre guillemets. On récuse les scientifiques officiels à toutes sortes d'occasions, et particulièrement lorsqu'il s'agit de leur refus de s'occuper de ce que l'on appelle les fausses sciences, c'est-à-dire la parapsychologie, l'astrologie, la télékinésie et quelques autres du même genre. Bon, je crois que il y a dans cette façon de récuser les scientifiques officiels quelque chose qui se rapporte en même temps à une certaine façon de récuser le pouvoir politique auquel les scientifiques paraissent étroitement liés. Par conséquent, je crois que ce problème des fausses sciences n'est pas simplement un problème de discussion rationnelle, c'est aussi un problème politique de comprendre exactement pourquoi cela a un certain succès dans un très grand nombre de milieux. Alors je voudrais aborder maintenant un point particulier sur lequel il me semble difficile de faire de très grands développements, qui est celui des sciences sociales. Il y a sur le plan des principes, sur le plan conceptuel, une différence extrêmement grande entre les sciences de la nature et les sciences humaines ou les sciences sociales. Dans l'expérimentation du scientifique, quand il s'agit des sciences de la nature, il n'y a jamais un problème à demander son avis à l'objet d'expérience. On ne demande pas son avis à l'atome sur lequel on fait une expérience, on ne demande pas non plus son avis au cobaye, on ne demande pas son avis à la plante. Toutes ces expériences-là sont des expériences dans lesquelles l'objet d'expérience n'a pas d'opinion à émettre. Par contre, dès qu'il s'agit des problèmes humains, il est impossible, en définitive, que l'observateur du phénomène puisse opérer sans le consentement de son sujet d'expérience. C'est vrai en psychologie, c'est peut-être dans certains cas moins vrai en ethnographie, où un ethnographe peut se mettre derrière une glace et regarder vivre les gens d'une société quelconque. Mais en réalité, toute interaction du scientifique avec les êtres humains avec qui il travaille le modifie lui-même, l'observateur, mais modifie aussi les personnes avec qui il travaille. Il y a donc une difficulté particulière à acquérir la notion d'objectivité dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines en général. Et je crois qu'il s'agit là d'un domaine de recherche dans lequel la méthodologie elle-même a encore besoin de s'élaborer. Je pense que, en particulier dans le domaine de la société, par le fait même que l'activité sociale est l'activité de tous, on peut difficilement imaginer un véritable progrès des sciences sociales s'il n'y a pas une participation des intéressés eux-mêmes, une espèce de réunion de la théorie et de la pratique à travers les individus. Mais ceci ne serait possible que si les individus devenaient disponibles pour ce genre d'activité, et ils ne le seront pas tant que la durée de la semaine de travail ou la durée annuelle du travail sera ce qu'elle est actuellement. Le temps libre dont disposent les individus pour s'occuper des affaires de la société est tout à fait insuffisant, et je crois que tant que ce temps sera insuffisant, on aura affaire à des sociologues professionnels qui sont des espèces de privilégiés, plus une masse de gens qui, eux, regarderont les résultats des sociologues professionnels. Et tant que cette situation durera, d'une certaine façon, je dirais, il n'y aura pas de véritable progrès sociologique. Je ne sais pas si les sociologues seraient d'accord avec ce point de vue. Dans le fond, je n'en ai jamais discuté avec eux. Alors, je voudrais essayer de tirer quelques conclusions de cette revue rapide d'un certain nombre de problèmes scientifiques. Je pense que si on admet que le savoir scientifique joue un rôle et jouera un rôle de plus en plus grand dans notre société, dans la mesure où notre société étant de plus en plus tributaire des résultats scientifiques, il me paraît extrêmement dangereux que nous soyons tous des utilisateurs de boîtes noires dans lesquelles on ne sait pas ce qui se passe. C'est déjà largement vrai quand il s'agit des mécaniques ou des dispositifs électroniques dont nous nous servons quotidiennement. Cela risque de le devenir encore plus à l'avenir. Donc nous risquons si une formation scientifique suffisante n'est pas donnée, à nous trouver de façon collective devant une sorte d'état d'infériorité devant la société mécanisée et technologique dans laquelle nous nous trouvons. Il y a donc là un problème de réforme au niveau de l'enseignement, au niveau des enseignements, en tenant compte surtout du fait que nous avons d'une part à apprendre un certain nombre de grands concepts généraux, comme par exemple l'existence même de lois de la nature, comme l'universalité des lois de la nature, comme des notions plus précises, comme par exemple la notion d'énergie, des notions même mécaniques très simples, comme la notion de force de façon extrêmement claire et non pas confuse. Tout cela, c'est étroitement lié à la façon dont nous vivons dans la société. Si nous nous préoccupons de ce qui se passe au niveau plus élevé, il est nécessaire qu'une politique scientifique claire soit au niveau national soit choisie. Pour vous donner une idée de la situation actuelle, on vient de décider que dans le cadre de ce qu'on appelle l'enveloppe recherche, il y aurait une croissance de 3% en personnel par an. Ceci parce qu'on a fini par convaincre les milieux gouvernementaux que si on n'admettait pas une certaine croissance en personnel, on aboutirait rapidement à un vieillissement des cadres de la recherche et à leur stérilisation, à leur stérilité. Mais ces 3% de croissance ne concernent que certains secteurs particuliers, comme par exemple le Centre national de la recherche scientifique. Mais les universités se trouvent exclues de ce taux de croissance de 3%, alors que, de fait, elles représentent plus de la moitié de l'effort scientifique national. Autrement dit, on risque... Si on prend une mesure contre la stérilisation dans un certain domaine, eh bien, on ne prend pas les mesures contre la stérilité dans un autre. De la même façon, il y a aussi un problème d'investissement dans ce domaine. Il faut bien se dire que les domaines de la recherche scientifique ne sont pas des domaines dans lesquels on peut allégrément tantôt arrêter les crédits, tantôt en redonner. On ne fait pas de la recherche scientifique comme on construit une ligne de chemin de fer. Quand on construit une ligne de chemin de fer, tant qu'il y a de l'argent, on pose des rails. Quand on n'a plus, on arrête de poser des rails. Et si l'argent revient, on se remet à poser des rails. Quand il s'agit du domaine de la recherche scientifique, si à un moment donné, l'argent cesse d'alimenter certains domaines, on peut considérer que ces domaines risquent de disparaître complètement. C'est l'extinction, et avec ensuite des efforts considérables et pendant beaucoup d'années pour essayer de les reconstituer. Nous avons connu dans l'histoire française un certain nombre de péripéties concernant l'activité de recherche, l'activité de recherche universitaire a été constamment remise en cause, et ceci depuis plus d'un siècle. L'exemple que je donne toujours à cette occasion, c'est celui d'une lettre du ministre de l'Instruction publique à Pasteur, alors qu'il était doyen de la faculté des sciences de Lille, et où le ministre recommandait à M. Pasteur de s'occuper un peu plus de son université et de ses étudiants, et un petit peu moins de ses recherches. L'attitude actuelle est un petit peu du même genre. Les universitaires qui se débrouillent pour enseigner, faire passer des examens, et par ailleurs, il y a un autre corps de gens spécialisés qui feront de la science. La question qu'on ne se pose pas, c'est s'ils feront de la bonne science et s'ils pourront jamais recruter. D'ailleurs, la nécessité d'une attitude précise et claire en vue de ce recrutement est rendue nécessaire par l'intervalle de temps considérable qui s'écoule entre le moment où une vocation scientifique s'éveille chez un adolescent et le moment où il peut effectivement et professionnellement devenir un scientifique. Le choix se fait définitivement, je pourrais presque dire, au niveau de la classe de seconde, et il faut après environ 10 ans, en supposant que les études se soient passées sans aucune interruption et sans aucun retard, pour qu'il songe à entrer définitivement dans une carrière scientifique. Et par conséquent, il faut savoir 10 ans à l'avance ce qui va se passer. Enfin, je reviendrai sur ce problème de la déontologie scientifique. De la même façon qu'il existe le serment d'Hippocrate, d'après lequel un médecin s'engage à ne jamais mettre fin au jour d'un malade, on pourrait imaginer un code de déontologie du scientifique dans lequel celui-ci pourrait s'engager à ne jamais participer à des œuvres militaires, à des œuvres de mort, à des œuvres de destruction. Eh bien, voilà un ensemble d'idées. Je pense qu'il reste encore du temps pour discuter.
Je crois qu'il y a une attitude assez courante qui prévaut chez les scientifiques, c'est de penser que leurs orientations de recherche sont faites de façon assez neutre et que finalement, on les recherche, on les fait, et puis il n'y a que la société qui est responsable des applications de leur recherche. Et je pense qu'ils sont beaucoup moins conscients, de façon générale, du décalage qu'il peut y avoir entre les différents domaines de la recherche et le fait qu'on privilégie certains secteurs aux dépens d'autres.
Oui, je crois qu'il y a là deux problèmes. L'un qui se situe au niveau des orientations affichées et qui sont claires par les attributions de crédit qu'il peut y avoir. Et puis il y a aussi ce qui se passe dans la tête des gens. Et ça, il est vrai que très souvent, le scientifique, en toute bonne foi, pensera qu'il a déterminé en toute liberté et de façon autonome et par lui-même l'orientation générale de sa recherche. Alors, disons qu'au niveau, comment je pourrais dire, microscopique, c'est-à-dire sur ce qui se passe à l'intérieur d'une étape particulière d'un travail conduisant à une certaine découverte, une petite découverte. Il faut bien dire que l'essentiel du travail scientifique, c'est l'acquisition de petits résultats. Tout à l'heure, j'ai donné une petite liste de résultats spectaculaires, très nouveaux, très importants au cours des 100 dernières années, mais il n'y en a pas tous les jours comme ça. Eh bien, au niveau donc de la petite découverte, je dirais annuelle ou quotidienne, à ce niveau-là, le scientifique a certainement en général conscience qu'il détermine librement et indépendamment complètement son sujet de recherche. En réalité, je pense que c'est parce que l'influence de l'environnement social est beaucoup plus subtile que simplement une intervention autoritaire. Il y a d'abord, comme je vous l'ai dit, comme je ne sais pas si j'ai peut-être pas assez insisté dessus, il y a le fait que, confusément, le scientifique a toujours plus ou moins en tête le fait que si ce qu'il fait est susceptible d'une application, d'une part, ça le valorisera socialement, et d'autre part, ça lui amènera des crédits pour continuer son travail. Et je suis persuadé que cette attitude-là, à elle seule, peut influencer des orientations. Alors, bien évidemment, Si vous prenez des domaines très précis, parce que jusqu'à présent j'ai été très vague, si vous prenez un domaine très précis, et je prendrai par exemple le domaine de la physique qui est celui que je connais le mieux. Vous avez actuellement à l'intérieur même de la physique une certaine hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a certaines recherches qui sont valorisées par rapport à d'autres, qui sont considérées par conséquent comme plus honorables, comme plus remarquables, et qui conduisent à attribuer aux scientifiques qui sont dans ces domaines une autorité scientifique plus grande. Eh bien, cela, c'est certainement quelque chose qui est lié à une certaine conception de ce que c'est que l'obtention des résultats, de ce qui est important, et la notion même de hiérarchie est très étroitement liée à la structure sociale elle-même. Maintenant, il faut vous dire que l'analyse détaillée de ces influences est extrêmement difficile, et que c'est dans des cas très rares que l'on peut arriver à la mettre en évidence d'une façon claire et démonstrative.
Sur les discussions qui ont lieu actuellement, d'après ce que j'ai entendu dire, au syndicat national des chercheurs scientifiques. D'après les militants du PCF, au sein de ce syndicat, le gouvernement, d'une façon systématique, freine la recherche fondamentale. Et le PCF avance que la tâche principale, c'est de développer la recherche fondamentale. Or, là-dessus, il y a des discussions. Certains scientifiques pensent que ce n'est pas vrai. D'autre part, d'autres pensent également que ce n'est pas principal. À savoir, ils avancent la position suivante, c'est qu'en URSS, les recherches fondamentales sont beaucoup plus avancées que les recherches appliquées. Or, la science soviétique, apparemment, progresse moins que dans les principaux pays occidentaux. Donc, il y aurait la thèse du PCF serait combattue pour cette raison. Alors, d'une part, je voudrais donc que tu donnes ton avis enfin, sur la France et l'URSS et la position du PCF sur la question. Moi, dans l'immédiat, il me semble qu'il faut différencier la position gouvernementale sur la question. Dans certains domaines, il me semble bien que le gouvernement défavorise au maximum la recherche fondamentale. Il y a, par exemple, un exemple actuellement, c'est la crise de l'Institut Pasteur qui risque de fermer faute de crédit. Puis il y aurait une quantité d'autres exemples à donner. Néanmoins, dans d'autres domaines, je ne sais pas lesquels, mais enfin, on doit en trouver, peut-être la recherche atomique, par exemple, la recherche fondamentale est au contraire propulsée en avant. Je crois donc qu'il n'y a pas de réponse globale de la bourgeoisie sur la question de la recherche fondamentale par rapport à la recherche appliquée, mais un choix de différentes recherches fondamentales qui sont propulsées en avant pour des raisons militaires ou des raisons économiques, et d'autres qui sont au contraire, effectivement, le parent pauvre de la recherche scientifique. Bon, il me semble donc sur cette question, ce qu'avance le PCF n'est pas juste, c'est une façon schématique de présenter les choses.
Je pense que il y a des oscillations au niveau gouvernemental dans les choix qui sont faits concernant la recherche fondamentale. Du temps de Michel Debré, et on s'en est aperçu par les articles qu'il a publiés il y a 2 ans, il y avait une option qui était de faire un effort en faveur de la recherche fondamentale, dans l'hypothèse que de toute façon il y aurait des retombées quelque part. Je crois que de façon générale, la bourgeoisie ne s'intéresse pas à la science. Elle ne s'intéresse pas à la recherche fondamentale, et les choix qu'elle peut faire sont dictés par tout à fait d'autres considérations que l'intérêt de la découverte, ou même que l'intérêt des applications, surtout quand les applications paraissent comme potentielles et non pas comme sûres. À cet égard, il y a un ballon d'essai qui avait été lancé par Nicolas Vichenet dans Le Monde et qui revenait à dire, et qui est à peu près le suivant, notre savoir scientifique et technique à l'heure actuelle est plus que suffisant pour les applications auxquelles nous pouvons songer. Par conséquent, ce n'est pas la peine de dépenser plus pour ces domaines. Alors si la recherche fondamentale ne rapporte pas la gloire parce qu'on n'a pas des résultats extraordinaires à présenter tous les jours, si la recherche fondamentale ne rapporte pas parce que le réinvestissement au niveau des applications, on n'est jamais sûr de ce qui va se faire, dans ce cas-là, pourquoi continuer? Et si en plus les scientifiques sont des contestataires, alors là c'est une raison supplémentaire pour ne rien faire. Je crois qu'actuellement il s'agit d'une des oscillations du gouvernement bourgeois, mais ça, nous y sommes dans le même système de gouvernement depuis deux siècles, n'est-ce pas, d'une des oscillations du gouvernement. Nous pouvons très bien nous retrouver dans 5 ans ou 10 ans dans une phase où tout d'un coup on découvrira qu'il faut mettre de l'argent là-dedans. Parce que si on regarde l'histoire des 100 et quelques dernières années, on constate justement ce système d'oscillation. Tantôt on fait un effort, tantôt on arrête, tantôt on recommence. C'est un accordéon, n'est-ce pas, qui tantôt s'étire, tantôt se recontracte. Je pense que derrière cela, il faut bien penser que l'intérêt essentiel n'est pas celui de la découverte scientifique. Alors, en présence d'un certain corps existant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, on ne peut pas renvoyer tout le monde du jour au lendemain. Ce serait un problème social trop lourd, on ne peut pas le faire. Donc on peut tout au plus arrêter le recrutement. Sur le plan des crédits, on a un certain nombre d'engagements internationaux. De ce côté-là, on va à peu près le maintenir. Sur le plan national, on en fera le moins possible. Pas trop peu, parce qu'il y a toute une industrie qui vit au moyen des commandes qui sont menées par les milieux de la recherche scientifique. Donc on va éventuellement diminuer les crédits, ce qui satisfera un certain nombre de gens qui, du côté politique, trouvent qu'on dépense trop d'argent dans ce domaine, mais on ne réduira pas trop dans la mesure où il y a des incidences au niveau, par exemple, industriel et des commandes. Et je crois que c'est ça qui détermine cette politique et rien d'autre. Dans le cas de l'URSS, je pourrais essayer de présenter les choses de la façon suivante. Sur le plan de la recherche fondamentale, les soviétiques ont une position tout à fait éminente dans un grand nombre de domaines. Ils ont, dans le seul domaine de la physique que je connais assez bien, ils ont des gens tout à fait remarquables et tout à fait compétitifs sur le plan international. Comment se fait-il que l'industrie soviétique ne soit pas à la hauteur des scientifiques eux-mêmes, disons des académiciens, pour donner une classe, pour définir une classe sociale scientifique soviétique? Eh bien, je pense que c'est parce que toute opération industrielle en URSS est impossible par l'initiative individuelle. Il faut une décision qui soit prise à un niveau extraordinairement élevé. Et j'en prendrai comme exemple le problème des ordinateurs. Dans le cas des ordinateurs, l'Union soviétique a considéré à l'époque, à l'aube des ordinateurs, l'Union soviétique en tant que pouvoir politique, je ne parle pas de ce que les scientifiques en pensaient, je n'en sais rien d'ailleurs, ils ont considéré que ce n'était pas important. Et ils ont considéré que ce n'était pas important parce que Norbert Wiener, avec ses théories cybernétiques, a été dénoncé comme un vilain réactionnaire. Ce qui fait que, il était peut-être, je n'en sais rien, j'avoue que je n'ai pas réfléchi à la question. Mais le fait est que pour des raisons qui tenaient à une espèce de philosophie politique, on a considéré que l'informatique et les ordinateurs, ce n'était pas important. Alors, le jour où on a commencé à s'en occuper, il a fallu procéder principalement en important du matériel, soit officiellement, soit clandestinement. Plutôt clandestinement dans toute la période où il y avait les listes noires concernant les matériels qui ne pouvaient pas être exportés des États-Unis. Au moment où est apparue ce qu'on appelle la deuxième génération des ordinateurs, c'est-à-dire celle qui utilise les transistors et les semi-conducteurs, à ce moment-là, l'Union soviétique a pris un retard de plusieurs années sur ce qui se passait aux États-Unis. Et la raison en a été que, bien qu'il y ait en physique du solide et dans ce domaine des gens qui étaient des spécialistes tout à fait remarquables et de premier plan, pour transplanter ça sur le plan industriel, il fallait qu'une décision soit prise au niveau le plus élevé. Et que personne n'aurait jamais osé prendre la décision comme ça, et d'ailleurs de toute façon, si quelqu'un prend la décision en URSS, jamais il pourra obtenir les crédits, parce que les crédits sont commandés par les organismes du plan. Et je pense que c'est cette extraordinaire rigidité du système économique soviétique qui rend impossible qu'une application de ce type apparaisse avec la rapidité avec laquelle ça apparaît aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le fond, il suffit qu'un groupement de gens puisse convaincre un banquier que l'opération est faisable pour que ça marche.
Là-dessus, justement, la question des ordinateurs, je connais un peu le problème. Précisément, Brejnev, dans un de ses rapports au Congrès, mais je ne me rappelle plus quel Congrès, je ne sais plus si c'est le 22e, 23e ou 24e, enfin, ce n'est pas le dernier en tout cas, a justement insisté sur le fait que l'industrie des ordinateurs était en retard en URSS et qu'il fallait rattraper le retard sur l'Occident. Alors, peut-être c'est le 24e, je n'ai plus souvenance, mais il a insisté justement dessus. Alors, comment s'explique le retard qui continue? Enfin, peut-être que tu n'es pas au courant de ça, mais c'était dans un rapport à un congrès du PCUS.
Non, je ne suis pas au courant dans le détail de ces affaires-là. Mais je sais que par exemple, pour prendre un domaine où les Soviétiques ont fait un effort considérable, qui est celui de la recherche spatiale, ils ont réussi à construire le système de télécommunication dont ils avaient besoin au moyen d'importation de composants électroniques. Sur la question de savoir s'il faut une recherche fondamentale, alors là, je ne suivrai pas du tout une certaine tendance qui consiste à récuser la science en tant que savoir comme compromis avec tout le système répressif de la sociale. Pour moi, la recherche fondamentale est au contraire un instrument de libération. Justement, parce qu'elle représente comme méthode de pensée et comme mode d'approche de la connaissance du monde. Mais le véritable problème, c'est celui de la responsabilité du scientifique. Et je crois que de ce côté-là, nous sommes très en retard pour concevoir la façon dont un scientifique peut réellement avoir une attitude responsable dans la société.
Je voudrais poser une question là, parce que en fait on s'aperçoit de plus en plus que le savoir est utilisé comme forme de pouvoir. Et alors moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que les gens qui ne sont pas du tout des scientifiques pourraient envisager un contrôle populaire sur la recherche scientifique.
Oui, d'abord je ne comprends pas très bien la question. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que le savoir est utilisé par le pouvoir ou est une forme de pouvoir?
Non, enfin, le savoir est un pouvoir.
Oui, mais alors je ne comprends pas très bien cet énoncé.
Ah ben, enfin, pour moi c'est assez clair. Toute l'idéologie actuelle vise à séparer un peu le monde en deux, enfin la société en deux. Il y a les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Bon. C'est utilisé.
Bon, alors, je pense que il y a deux aspects à cela. Le premier concerne la répartition du savoir. Il est exact qu'actuellement, la possession du savoir est extrêmement mal partagée. Cela provient de ce que peuvent accéder aux connaissances savantes seulement un très petit nombre de privilégiés, c'est-à-dire les gens qui ont pu, pour des raisons sociales principalement, consacrer, je dirais, tout leur temps jusqu'à un âge avancé à des études qui, d'une façon ou d'une autre, ont été pris en charge par la société et ont pu s'occuper uniquement jusqu'à 22, 23, 24 ans d'acquérir des connaissances. Et il est absolument certain que les catégories sociales qui accèdent à cette possession du savoir sont des catégories privilégiées et que les capacités ou les dons, pour employer une terminologie classique, n'ont pas grand-chose à voir avec l'accès à ces connaissances. La seule façon de s'opposer à cela, c'est d'envisager une société dans laquelle l'acquisition du savoir est non pas quelque chose qui est réservé à des privilégiés, mais qui est ouvert au plus grand nombre possible, et dans lequel l'acquisition du savoir ne se fait pas au cours d'une première période de l'existence, après quoi on ne s'en sert plus, ou de façon bien inférieure aux efforts que l'on a faits pour l'acquérir, mais où ce savoir s'acquiert progressivement au cours, je dirais presque, de toute l'existence. La seule façon pour que ce soit possible, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est la réduction de la durée du travail. Marx avait déjà décrit quelle était l'importance de la réduction de la durée du travail pour la domination sociale des travailleurs de la société qui les environne. Et je pense que l'acquisition de ce savoir, sinon pour s'en servir directement, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer que tout le monde fasse de la physique ou de la chimie ou de la recherche fondamentale en général, ça c'est une aberration de le penser, mais qu'un nombre beaucoup plus grand de gens puissent acquérir des notions qui ne soit pas extrêmement fruste et rudimentaire, cela est possible à condition qu'ils en aient le temps nécessaire. Donc de ce côté-là, je crois que le problème du partage de savoir est avant tout un problème de durée du travail. Et on peut bien penser qu'à l'heure actuelle, avec les possibilités données par une productivité beaucoup plus grande, on peut envisager progressivement. Je ne dirais pas que c'est un problème politique simple à résoudre, mais on peut envisager progressivement une réduction de la durée du travail mensuel ou annuel, permettant à un nombre de plus en plus grand de travailleurs d'accéder à des connaissances, au savoir en général. Maintenant, le deuxième aspect, qui est l'utilisation du savoir, se fait au moyen de ce qu'on appelle le système de l'expert. C'est-à-dire que les milieux politiques eux-mêmes ne possèdent pas de savoir particulier. En règle générale, tu regardes quelle est la composition sociale des gens qui ont des responsabilités politiques, ce sont des gens qui ont fait des études de droit ou de lettres. Il est tout à fait exceptionnel de voir un homme politique qui a fait des études scientifiques. Il se trouve que notre président de la République est ancien polytechnicien, ce qui lui permet l'audace de s'occuper de mécanique quantique à l'occasion, mais pas d'une façon que je considérais comme très compétente. Mais en dehors de cette exception, l'immense majorité de nos hommes politiques sont des gens qui n'ont aucune espèce de culture scientifique, qui font toutes les confusions que j'ai énoncées tout à l'heure, et qui par conséquent, dans tous les problèmes où un savoir, une connaissance savante est nécessaire, font appel à un expert. Alors il y a en fait deux sortes d'expertise. Il y a les experts qui sont compétents dans des domaines qui ressortent des sciences de la nature, et en fait ceux-là on ne s'adresse pas à eux parce que dans le fond ils jouent un rôle extrêmement minime. Si je prends par exemple le cas de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, qui est en principe un organisme de conseil pour le gouvernement, les décisions au sujet des crédits dont va disposer la délégation sont prises par des représentants politiques des ministères et ne sont jamais prises par des scientifiques. C'est-à-dire que ce sont toujours les hommes politiques qui, en France, décident de la façon dont l'argent va être employé et des orientations et du volume de crédit. Les détails de la ventilation à l'intérieur des différents secteurs, ça on veut bien le laisser aux scientifiques, parce que ça c'est dans le fond une tâche qui n'est pas très importante et n'a pas beaucoup de conséquences. Là où les experts deviennent peut-être beaucoup plus importants, c'est quand il s'agit des domaines économiques et des domaines technologiques. Eh bien, lorsque nous avons une affaire comme celle dont il est question dans Le Monde d'hier soir, du choix pour une somme considérable du procédé de télécommunication en France, savoir si on va s'adresser à la filiale de ITT ou à la Thomson ou à je ne sais plus quel troisième groupe industriel pour équiper la France en téléphone, crois-moi bien, c'est pas une décision technologique. Il ne s'agit pas de savoir si un tel système est supérieur à un autre et si une boîte est supérieure à une autre pour mettre en œuvre cette opération. Il s'agit uniquement d'une opération économique et politique. Et là-dessus, les seuls experts qui jouent un rôle réellement important sont les experts en matière de théorie économique et qui éventuellement sont capables de dire ou d'affirmer si telle opération économique est souhaitable et telle autre ne l'est pas. Alors là, c'est un domaine dans lequel je récuse complètement la notion de savoir scientifique. C'est pas un savoir scientifique. D'abord, dans le domaine économique, il y a autant de théories qu'il y a d'économistes, et ensuite, ça n'est absolument pas le fait de se servir d'un ordinateur qui transforme une théorie en une théorie scientifique. C'est pas parce qu'on fait des calculs qui finalement ne redonnent jamais que ce qu'on a mis dedans, et en particulier dans ce domaine-là, ne redonnent jamais que les hypothèses politiques que l'on a mises dans le système, c'est pas parce qu'on fait un calcul que l'on fait de la science. Et par conséquent, je récuse complètement le caractère d'expert à ces soi-disant experts. Alors, je crois que, à ce point de vue-là, la notion de pouvoir du savoir est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Il s'agit en réalité d'une exploitation aux yeux du public de la notion de savoir pour justifier des décisions qui en réalité sont des décisions politiques. Autrement dit, on va dire, voilà, il faut faire ça parce que la science nous dit qu'il faut le faire. Alors, inclinez-vous, c'est la science qui l'a dit, elle a le dernier mot. Mais c'est un mensonge, c'est une exploitation de la crédulité publique. Au XVIIe siècle, quand le roi voulait faire quelque chose, il disait, je suis roi de droit divin, c'est moi qui décide. Bon, on ne peut plus actuellement faire croire que les décisions politiques sont prises parce que c'est directement la divinité qui en a inspiré le choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est la science. Mais c'est un mensonge. La science n'a jamais rien dit. Et on se cache derrière le masque de soi-disant experts pour faire croire que ce sont des décisions nécessaires. Et je pense que si la science, aux yeux du public, est si facilement déconsidérée à l'heure actuelle et considérée avec une certaine hostilité, c'est justement parce que le pouvoir politique argue d'un certain savoir en prétendant qu'il est scientifique pour imposer des décisions qu'il ne pourrait jamais imposer autrement. Le mot scientifique, il se fourre partout. Par exemple, y compris dans les poudres pour machines à laver. Il y a une marque de poudre qui s'appelle Homo et dont on fait croire qu'il faut l'acheter parce qu'on dit qu'il est homo scientifique. Qu'est-ce que la science a à voir là-dedans? C'est très spécifiquement une publicité mensongère, et je pense que les membres du gouvernement ou les hommes politiques qui arguent soi-disant d'une science pour imposer des décisions à caractère politique pourraient très exactement eux aussi être accusés de publicité mensongère.